Dans notre précédente causerie, nous avons présenté, dans ce cadre des rapports entre religion et politique, comment s'est noué, après quelques mois d'euphorie, une véritable crise entre religion et politique dans le diocèse de Cahors comme dans l'ensemble du royaume de France. Après l'euphorie largement partagée par les membres du clergé, au moment de la convocation des États généraux, toute une série de mesures sont venues ouvrir un fossé entre religion et politique. Il s'agit d'abord de ces interventions du pouvoir civil dans l'organisation de l'Église, la suppression des vœux monastiques considérés comme contraires à la liberté, la confiscation des biens du clergé, en dépit du droit de propriété qui avait été proclamé sacré, et surtout la constitution civile du clergé qui bouleversait complètement l'organisation et le fonctionnement de l'Église de France. Cela sans aucune consultation avec la hiérarchie, qu'elle soit nationale ou que ce soit avec le chef de l'Église universelle, le pape de Rome. C'est donc un véritable diktat qui est responsable de ce qu'on appelle un schisme, c'est-à-dire une division entre deux églises, celle qui accepte l'ordre nouveau avec des membres du clergé élus, évêques, curés, qui acceptent de prêter un serment de fidélité à la nation d'abord, à la loi ensuite, au roi en troisième lieu. Mais le roi n'avait pas eu la moindre consultation à cet égard. Il s'agit donc d'un schisme extrêmement grave qui oppose les jureurs qui sont en minorité, une forte minorité au départ, 42%, et les réfractaires, ceux qui ont refusé de prêter le serment et qui refusent cette constitution civile du clergé. Le mot de « civil », évidemment, est tout à fait significatif. Après la condamnation du pape, nous l'avons dit, bien de ceux qui avaient juré même se sont rétractés, c'est-à-dire ont renié leur serment, ce qui évidemment a accru d'autant le nombre de mécontents et de réfractaires. Donc en gros, on peut dire que un tiers seulement du clergé lautois, après cette condamnation du pape, a suivi l'Assemblée de Paris. Il s'agissait d'abord de mettre sur pied, en quelque sorte, la nouvelle Église issue de la loi. En 1791, bien sûr, on a procédé à l'élection du nouvel évêque. L'ancien, Monseigneur de Nicolaï, ayant quitté le diocèse, a été élu Jean d'Anglars, qui était archiprêtre à Cajar. C'était un homme parfaitement digne, irréprochable, sur le plan des mœurs, comme sur le plan de la doctrine, qui va avoir une tâche extrêmement difficile dans ce contexte révolutionnaire qui va ne cesser, nous allons le voir, de se radicaliser. Les réfractaires, qui ne pouvaient pas se référer à l'évêque de Nicolaï qui était parti, ont choisi pour les diriger un évêque clandestin, en quelque sorte, l'abbé de Bécave, qui pendant 10 ans a été le chef de cette église réfractaire. Donc, un schisme, un divorce complet accompli entre religion et politique. Et ce divorce va se trouver encore aggravé par tous les événements qui se sont succédés en 1791 et 92 et dans les années encore qui ont suivi. En effet, on peut parler de radicalisation de la Révolution, c'est la chute de la monarchie le 10 août 92. C'est la guerre avec l'Europe menaçant la révolution sur nos frontières. Et par conséquent, tous ceux qui apparaissent comme des ennemis ou comme des gens qui se déclarent contre la révolution sont extrêmement suspects et vont être poursuivis. Les réfractaires, en effet, vont être chassés de leur paroisse. Un curé réfractaire est chassé de leur paroisse. Parfois, il y a eu violence physique. Il y a eu des paroisses où on a accepté le nouveau curé, jureur, mais il y a eu des paroisses où on n'en a pas voulu. Et où le curé jureur officiellement désigné n'a pas pu prendre ses fonctions, a été accueilli par la population de manière extrêmement hostile. Il faut imaginer tout le trouble que cela pouvait occasionner dans les consciences, puisqu'en effet on disait que les sacrements donnés par le prêtre jureur n'était pas bon. L'évêque réfractaire, l'abbé de Bécave, pouvait dire ainsi que les mariages, que l'absolution, que n'étaient pas crédibles s'ils n'avaient pas été donnés par les prêtres réfractaires et s'ils avaient été donnés par un schismatique, par un prêtre jureur. Vous imaginez on peut imaginer dans les campagnes, dans les familles, le trouble que cela pouvait occasionner. Ces réfractaires ont été amenés souvent à une vie clandestine. Certains sont partis en Espagne, notamment. D'autres sont restés, se cachant chez des familles amies, parfois dans les grottes de nos falaises où ils étaient entretenus, nourris par la population, au risque de se voir découverts, emprisonnés, en tant qu'ennemis de la Révolution. Un climat donc absolument détestable. Une étape suivante a commencé en 1793. Après le divorce complet que nous venons de voir, la division entre catholiques, après le divorce, l'affrontement. l'affrontement total, c'est-à-dire l'incompatibilité totale entre la religion catholique et la révolution. C'est une véritable révolution culturelle. Et désormais, les hommes qui sont au pouvoir à Paris veulent extirper la religion du pays, cette religion qui est considérée comme ennemie du peuple, source d'oppression, complice de l'oppression qui était dénoncée sous l'Ancien Régime. Voilà pourquoi on peut parler d'un affrontement. Dans cette phase radicale, il ne s'agit plus simplement de débats d'idées entre plusieurs tendances ou plusieurs partis, mais il s'agit de la volonté de détruire l'adversaire, au mépris même des valeurs que la Révolution, dans sa phase première, avait décrétées, c'est-à-dire la liberté, l'égalité en droit des citoyens, le respect de la religion, encore une fois, qui se trouvait dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nul ne pourra être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Eh bien, tout cela appartient au passé, et c'est une véritable politique de déchristianisation qui se met en place à partir de 1793. C'est-à-dire, encore une fois, l'incompatibilité absolue dans l'ordre nouveau entre cette jeune république et la religion. Comment se marque cette déchristianisation? C'est d'abord la laïcisation de l'état civil. Autrefois, c'était les curés qui tenaient les registres paroissiaux, les registres de baptême, de mariage, de décès, tenaient lieu de registres d'état civil. Désormais, ça appartient au pouvoir civil, au pouvoir du maire de la commune, puisque la commune a remplacé la paroisse, chaque paroisse devenant une commune. Il y en avait près de 42 000 en France. Ce qui est significatif, c'est qu'on voit apparaître dans ces nouveaux registres de l'état civil des cérémonies civiles, des mariages qui ne sont pas contractés devant un prêtre, mais des mariages qui sont simplement déclarés devant l'autorité civile. Et dans les registres de naissance, on voit apparaître de nouveaux prénoms, Brutus, qui était célébré, ces héros de l'Antiquité, qui avaient combattu le pouvoir absolu, Brutus, l'assassin de César, mais également des Marats, ce Marat extrêmement violent, qui avait été assassiné par Charlotte Corday. Cela avait fait grand bruit, c'était un véritable martyr de la Révolution. Et des petits garçons se sont appelés Marat, et tant d'autres prénoms de ce genre, comme des filles qui se sont appelées Liberté et Égalité. Beaucoup plus significatif et beaucoup plus contraignant, c'était la laïcisation du calendrier. Le calendrier grégorien, issu d'une réforme incitée par l'Église et complétée au XVIe siècle, a été remplacé par le calendrier républicain, c'est-à-dire un calendrier avec des mois uniformes de 30 jours et qui avait des noms purement bucoliques, calqués sur l'agriculture, ou sur la météo. Nous avions fructidor, nous avions vendémiaire pour les vendanges. par exemple. Ce calendrier était très poétique, certainement, mais ce calendrier avait surtout pour conséquence l'abandon de la semaine. Désormais, le calendrier, chaque mois, était divisé en décades. Et il s'agissait de célébrer, de se reposer le décadi, c'est-à-dire le dixième jour, et non pas le dimanche. Ce qui fait que le dimanche se trouvait interdit, et quelqu'un qui s'arrêtait de travailler le dimanche, et n'en parlons pas qui aurait assisté à une messe, mais il n'y en avait plus, voire clandestine, était très sévèrement considéré et très sévèrement jugé. Donc, vous imaginez le trouble introduit dans la société par cette modification du calendrier. Ce calendrier qui, nous le savons, est resté en vigueur jusqu'en 1804. Laïcisation de l'état civil, laïcisation du calendrier, laïcisation aussi des lieux et non publics. Il y a une très longue liste à cet égard en Quercy, dont nous ne citerons pas la totalité bien entendu, mais tout ce qui pouvait se rapporter à une référence religieuse dans les noms publics et dans les lieux publics était supprimé. Par exemple, tout, et ils sont innombrables, les noms de saints pour telle localité ou pour tel hameau ou pour tel bâtiment même. Donc on le supprime et on le remplace par un autre nom. Saint-Céré, par exemple, est devenu Franc-Céré. Puis l'évêque, horreur puisque c'était l'évêque qui l'avait fondé, devient puis libre. Saint-Chamaran devint Beauchamp. Castelnau-Mont-Ratier, c'était un aristocrate, est devenu Castelnau-la-Montagne. Ainsi de suite, ainsi de suite. À l'automne 93, c'est évidemment la conclusion normale d'une telle politique, les cérémonies religieuses sont interdites, c'est-à-dire que les églises sont fermées. La cathédrale est fermée en décembre 93. À cet égard, on peut évidemment regretter ce qu'on a appelé le vandalisme révolutionnaire, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même de la cathédrale et du cloître, tous ceux qui pouvaient rappeler l'ancien régime, des statues de saints, des fleurs de lys sur des blasons, tout cela a été cassé, martelé, comme on disait, dans un souci de dévastation. Les cloches ont été descendues dans beaucoup de villages. À la cathédrale, on a reculé devant l'entreprise tellement les cloches étaient lourdes, étaient grosses, on n'en a descendu que deux petites. Officiellement, c'était pour fondre des canons, puisque les canons étaient faits en bronze à l'époque. Le mobilier de la cathédrale a été vendu. Tous les ornements sacerdotaux, ceux qui étaient brodés de fils d'argent ou d'or, ont été récupérés ainsi pour le trésor public, de même que les vases sacrés, sauf ceux qui avaient été mis à l'abri par quelques fidèles ou quelques membres du clergé. Bref, un véritable saccage. Il y a eu même devant la cathédrale de véritables mascarades. Des mascarades où on mettait des personnages vêtus en évêque, en ornement sacerdotaux, sur des ânes montés à l'envers, pendant que le peuple chantait la Carmagnole ou d'autres chants révolutionnaires alentour. Bref, un sentiment d'hostilité extrême et d'éradication de la religion. En Quercy, ce fut mené particulièrement par un représentant en mission de la Convention qui s'appelait Beau, B-O, avec un accent circonflexe, je précise bien. Ce représentant Beau était chargé d'abattre les clochers dans les villages. Pourquoi ? Parce que, disait-il, les clochers étaient une insulte à l'égalité. Et il ne s'agissait pas qu'il y ait ainsi un clocher plus haut que l'ensemble des maisons tout autour. Et heureusement, il n'a pas eu le temps, de mettre à bas trop de clochers. Mais enfin, on a commencé dans certains secteurs, notamment du district de Figeac. De même, il y a eu beaucoup de croix, de ces croix de carrefour de nos chemins qui ont été abattues à ce moment-là. Ce qui est très grave, c'est qu'il y a eu persécution de l'ensemble du clergé. On sait très bien que le clergé réfractaire est combattu, emprisonné parfois, mais ça se justifiait parce qu'ils avaient refusé le serment. Mais on a persécuté également les curés constitutionnels, puisqu'ils représentaient une religion que l'on voulait éradiquer et qui était censée opprimer le peuple. Par conséquent, tous les prêtres ont été poussés à abjurer, à abjurer leur religion, y renoncer lors de déclarations publiques, puisque, selon le gouvernement, seule la Constitution de la République pouvait constituer un ciment entre les citoyens et non pas un sentiment religieux. Ces prêtres ont été poussés à se marier, ce qui était le signe évidemment le plus visible de leur renonciation à la religion. Cela a touché à peu près 10% dans le diocèse. Certains ont été contraints de le faire pour échapper à un sort beaucoup plus grave. Mais enfin, la majorité des prêtres a quand même résisté dans l'abjuration et s'est réfugié dans la clandestinité. Un prêtre a été guillotiné à Caussade, deux prêtres du diocèse guillotinés à Paris, un à Cahors en septembre 1994. Tous ceux qui avaient refusé de prêter le serment et que l'on pouvait capturer ont été incarcérés dans le grand séminaire, c'est-à-dire dans ce qui a été plus tard la Maison des Œuvres, l'ancien grand séminaire fondé par Alain de Solmignac. 67 d'entre eux ont été acheminés à Bordeaux, entassés sur des bateaux dans le Lot, parce qu'on avait peur, si on les faisait voyager par terre, que la population se réunissent pour les délivrer. Ils ont été, ceux qui sont parvenus à Bordeaux ont été enfermés sur des pontons, dans des conditions sanitaires épouvantables. Beaucoup étaient âgés, sont morts. 67 au total. Et si on compte les prêtres guillotinés, véritables martyrs de la foi qui ont été canonisés sous le pontificat de Jean XXII. Ainsi, sur les décombres de cette religion qui avait façonné le peuple chrétien du Quercy, les autorités ont essayé d'imposer de nouveaux cultes, ce que, effectivement, devait être la révolution culturelle que nous avons signalée. Ce fut le culte de la raison. La cathédrale est rouverte au printemps 94 et on y célèbre un culte de la raison chaque décadie, culte de la raison et de la philosophie. On donne des nouvelles de la République, des victoires des armées de la République, on fait des sermons républicains, mais il faut bien reconnaître que après quelques décadies où ça a été passablement suivi, beaucoup de gens ont abandonné ce culte qui n'a jamais été profondément enraciné, on s'en doute. Il a été remplacé, ce culte de la raison, à l'époque où Robespierre est tout puissant, par le culte de l'être suprême, puisque Robespierre était contre l'athéisme. C'est-à-dire, il croit en Dieu et il a fait marquer sur la cathédrale le gouvernement de la République reconnaît le culte de l'être suprême. Il reste des témoignages de ces épisodes. À Figeac, la place qui est en face Saint-Sauveur s'appelle toujours la place de la raison, ce nom qui lui avait été donné à l'époque où le nouveau culte avait été institué.